Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie, la plus belle, avec Smyrne d'ailleurs, des églises d'Asie, en quelque sorte. Philadelphie, Philadelphia, vous savez, amour fraternel, c'est la signification. C'était donc une église peu nombreuse, pas d'une grande importance, mais aux moyens limités, mais fidèle à la parole de Dieu malgré les efforts. Alors, elle était dans un meilleur état spirituel que beaucoup d'autres, bien sûr. Elle servait humblement à la gloire de son Dieu. Alors, le Seigneur lui dit en quelque sorte, retiens, garde ce que tu as. Reste bien accroché à ce que tu as, parce que ce que tu as, c'est une couronne merveilleuse sur ta tête. Il te faut veiller afin que personne ne te la ravisse. Alors, le Seigneur nous dit encore, ce matin, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre notre couronne? Ah, bonne question. Hein. Oui, parce qu'il y a une mise en garde. Ça, la parole de Dieu, elle ne parle pas pour ne rien dire. Alors, couronne en grec, il y a diadéma. C'est la couronne royale, et puis Stéphanos qui est la couronne qui est promise au vainqueur. Il s'agit ici de Stéphanos, la couronne qui est une récompense pour les fidèles. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous n'apprenons rien. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, comme nous dit la parole de Dieu. C'est le cadeau de Dieu, mais il y a une récompense qui sera différente, bien sûr, pour chacun, en fonction de son activité, de son service pour le Seigneur. En quelque sorte, on pourrait dire que Dieu, d'une certaine manière, pèse notre service sur sa balance. Sur une balance qui est parfaitement juste. Par contre, nous, notre échelle de valeur ne l'est pas toujours. Nos mesures ne sont pas toujours celles du sanctuaire divin. Il existait une unité de mesure lors de la construction du temple, du tabernacle plutôt, le cycle du sanctuaire. Le cycle du sanctuaire. On peut dire que nous avons besoin, les uns et les autres, de toujours étalonner nos balances intérieures, de toujours régler nos balances sur la base de la parole de Dieu. Autrement dit, sur le cycle du sanctuaire. 1 Corinthiens 3,8 dit que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. On remarque cela quand même. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, il y a certaines activités, ils nous mettent en avant. Bien sûr, ça arrive. Notre travail peut être rendu visible aux yeux des autres. Il y a certaines œuvres qui se passent. Dans le lieu secret, par exemple, personne ne les voit. Mais elles n'en ont pas moins de valeur aux yeux de Dieu. Sachant bien que tout ce qui est fait par amour pour le Seigneur aura sa récompense. Tout ce qui est fait par amour. Nos motivations, elles passeront par le feu. Eh oui, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Tout ce qu'on aura fait pour être vu des hommes sera consumé. Il ne restera que ce qui aura été accompli par amour. Hein? Bien sûr, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 3,15 nous dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Alors il était un temps où Amalek faisait un mauvais coup au peuple d'Israël, il attaquait tous ceux qui traînaient un peu derrière, ceux qui étaient à l'arrière du troupeau, aujourd'hui encore, il essaie de les endormir, il essaie de les aveugler, il essaie de les tromper, il essaie de les pousser à seulement paraître aux yeux des hommes. Et il est aussi capable, et il faut être conscient, de s'attaquer aux plus fidèles. Il mettra toujours un appât en fonction du poisson. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres. » Veillons les uns sur les autres. Personne ne peut s'imaginer être fort tout seul, quoi. Hein? Nous avons besoin les uns des autres. Veillons les uns sur les autres. Alors c'est écrit, garde ce que tu as. Que personne ne prenne ta couronne. Dans Lévitique 21-12, trouve un texte qui dit, en ce qui concerne le souverain le sacrificateur, l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Ah, c'est vrai que le sacrificateur, il avait reçu l'onction. Il était consacré, mis à part pour le service de Dieu. Dans l'ancienne alliance, bien sûr, il y avait l'onction sur les sacrificateurs, sur les prophètes, sur les rois, etc. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs, vous le savez bien. Nous sommes tous aux ordres de notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à être saints. Nous sommes tous appelés à recevoir l'huile d'onction, qui est déjà une couronne, qui est déjà une couronne ici-bas. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, tous sans exception. Nous avons tous notre utilité dans le corps de Christ, vous le savez bien. Il y a diversité de dons, diversité de services, mais il y a un même but, c'est de servir notre Seigneur. Et un autre but, c'est que nous soyons serviteurs les uns des autres. Ça, c'est aussi important. Et témoin, bien sûr, de Jésus-Christ. Garde ce que tu as. L'onction, elle reposait sur cette église de Philadelphie car elle gardait la parole. Elle persévérait dans sa mise en pratique. Elle ne se contentait pas d'une connaissance intellectuelle ou d'un langage chrétien. Le ramage, ça ne suffit pas. Il faut la vie qui va avec. Bon, pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut d'abord s'en nourrir. C'est la première des choses à faire, s'en nourrir, la lire, la méditer, la serrer dans son cœur, et la vivre, bien sûr. Alors, on a quelquefois rencontré de chers frères et sœurs, quelquefois qui avaient de l'âge, qui étaient comme moi, qui n'étaient pas jeunes, hein, qui disaient, mais j'ai à peine fermé la Bible que je me rappelle plus ce que j'ai vu. Ah oui, c'est l'ennui des années, hein, quelquefois. Mais, vous savez, il est possible que la mémoire fasse. Oui, c'est physique, qu'est-ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu est une puissance de vie. Et sans que nous en rendions compte, elle germe et porte du fruit en nous.
Amen.
C'est ce que le Seigneur a dit. Marc 4, 26. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui, quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Voilà. Alors, il ne faut jamais se décourager, quoi, même si on a quelques trous de mémoire. Garde ce que tu as. Alors, il y a une première chose qu'il ne faut pas oublier. C'est 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, c'est la première des choses. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se glorifier. Hein? Ce que tu as, c'est d'abord ce qui demeure. C'est ta foi, c'est l'espérance, et c'est la charité d'amour. Ces choses, nous avons besoin qu'elles demeurent en nous. Nous avons besoin de les garder. La foi, qui va être le moyen d'avancer, l'espérance, qui est la vision du but, et l'amour, qui est le chemin par excellence. Il y a un texte de Romains 14, 22 qui dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Bon, nous en tant que témoins de Jésus-Christ, on est appelés bien sûr à appeler ceux qui nous entourent à la foi, hein, à les aider justement à ce qu'ils mettent leur foi dans notre Seigneur. Hein. Alors, il y a une autre traduction, je crois, qui est plus près de la pensée, c'est « Garde tes convictions pour ceux qui te concernent devant Dieu. » Garde tes convictions. Ça, c'est dans cette pensée-là que c'est écrit. Alors, n'écrase pas le frère, n'écrase pas la sœur qui te paraît plus faible. Il y a une belle expression dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup personnellement. On la trouve deux fois, dans Romains 14, 15 et dans 1 Corinthiens 8, 11. Le frère pour lequel Christ est mort. Le frère pour lequel Christ est mort. Finalement, il y a deux expériences. La première expérience, c'est quand je suis venu à Christ, quand je suis venu à la croix. J'ai compris que Christ était mort pour moi. J'étais le frère pour lequel Christ est mort. Et puis, il y a une deuxième expérience. C'est le Seigneur m'a ajouté au corps de Christ. Alors là, j'ai compris que les frères, les sœurs, c'était ceux pour lesquels Christ était mort aussi. C'était la deuxième expérience. Hein. Quand je vous regarde, hein, je regarde la sœur, je dis c'est la sœur pour laquelle Christ est mort. Le frère, c'est le frère pour lequel Christ est mort. C'est important ça, c'est pas quelque chose qui est à négliger. Hein. C'est important. Quelquefois, on l'oublie un peu, et on oublie la valeur d'un frère. La valeur d'une sœur, aux yeux de Dieu. Alors certains, bien sûr, ils font quelques petites expériences. Ah, ils sont supérieurs. Ah, ils ont fait quelques expériences, ils ont compris des choses. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est 1 Corinthiens 4, 6 qui dit « Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Que le Seigneur nous garde. Restons dans l'humilité. Alors certains n'ont pas veillé, ils ont souvent fait taire leur conscience. L'apôtre Paul qui exhortait Timothée, l'exhortait à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et il disait, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est Luther qui disait, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Il disait ça, je crois que c'était en 1521. Je vous rappelle que c'est le 6 mars. Par contre, parce que c'était la date de naissance de mon père. Il n'était pas né en 1521, lui était né en 1916. Heureusement pour moi. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Amen. Garde ce que tu as. Hébreux 10, 35 dit, n'abandonne pas ton assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, en gros, de braves frères et sœurs, quelquefois, ils ont perdu l'assurance du salut. Ils ne sont plus très sûrs. C'est malheureux, hein? C'est malheureux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, baptême, ils étaient tout fringants, ils avaient plein d'assurance, etc. Ils ont été négligents, certainement. Ils ont négligé la nourriture, ils ont négligé la respiration de l'âme. On pourrait dire l'oxygénation de l'âme. Ils ont oublié. Ils ont cessé de contempler Jésus, leur espérance. Ils sont entrés dans une spirale de raisonnement insensé en ce qui concerne la parole de Dieu. Bon, ce qui me semble aujourd'hui, ça bat le record. Quand on regarde sur Internet, ils sont tous docteurs. Toutes et tous docteurs. Quelle catastrophe. Ils s'en disent des bêtises. Voilà. Jacques 1,22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisons. » Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut garder, c'est la communion des frères. L'unité. Amen. Quand on voit la place de l'unité dans la prière sacerdotale, ça nous donne à réfléchir. On se rend compte que ce n'est pas qu'un détail. Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Amen. Puissions-nous encore faire des progrès dans cette unité pour la gloire du Seigneur. C'est vrai que j'ai quelquefois envie de dire au Seigneur, donne-moi des yeux spirituels pour que je puisse te voir dans mon frère, dans ma sœur.
Amen.
Donne-moi les yeux spirituels. Mmh. Que je ne vois pas leurs défauts. Mmh. Parce que moi j'en ai aussi. Sinon, si je regarde que leurs défauts, ça va m'empêcher de voir l'œuvre que le Seigneur a accomplie en eux. Il est vital que je garde ce qui est bon, que je vois ce qui est bon. J'ai besoin de voir qu'ils sont de nouvelles créations, n'est-ce pas ?
Amen.
Amen. Mmh. Que cette vision soit en nous. Parce qu'on est. Humainement, vous savez, l'humain, il voit toujours ce qui ne va pas. Seigneur, fais-nous grâce. Alors, il est important que nous pratiquions deux actions. D'abord, retenir, garder ce qui est bon, et rejeter ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la parole, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est conforme à la sagesse divine. Alors, je vais serrer ces choses dans mon cœur, mais je vais rejeter. J'ai besoin de le faire aussi pour faire de la place. Je vais rejeter ce qui vient de la sagesse humaine, des rêveries, du sentimentalisme humain, charnel, et tout ce qui s'élève comme une barricade contre la parole de Dieu. Au jeune homme riche, le Seigneur lui dit en quelque sorte, débarrasse-toi de ce que tu as. Il lui dit, regarde ce que tu as, lui. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ce que Philadelphie avait, c'était Christ lui-même d'abord. C'était Christ. C'était celui qui était la parole. Ce que le jeune riche avait, c'était sa propre vie, sa pratique religieuse, fidèle, mais ses richesses auxquelles il était très attaché, et c'était là qu'était son cœur. Il lui manquait une chose, il fallait renoncer à tout pour suivre Jésus. Va avant, et suis-moi. Alors nous, il y a des choses dont il faut nous débarrasser, des choses qu'il nous faut garder. Le Seigneur ne nous demande pas à chacun de rendre tout. Certainement pas. Mais il nous demande de passer de la situation de propriétaire à celle de gestionnaire. C'est en quelque sorte lui donner tout. Pareil. C'est en quelque sorte mettre tout à ses pieds. Ouais, je ne suis pas sûr que le pharisien là, qui est en train de, à quatre pattes dans son jardin, en train de compter ses branches de menthe, etc., de ses herbes, pour en donner la dîme, je ne suis pas sûr qu'il se considérait comme un gestionnaire, plutôt comme un propriétaire. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ah, il nous faut rester dans la plus grande humilité. À quoi renonçons-nous pour Jésus? Pierre, Jacques et Jean, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et je me suis dit, tout? C'était leur gagne-pain, les barques. C'était leur vie. Puis l'apôtre, il pouvait dire que que pour Jésus, il avait renoncé à tout. Il avait renoncé à tout et qui regardait toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Je crois qu'il nous faut rester humble devant ces exemples. La Sulamite du Cantique, elle s'était fourvoyée, elle disait, moi, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Celui que nous avons besoin de garder, c'est celui qui est le cep. Amen. Jésus a pu dire, je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Gardez Jésus dans son cœur et la vision de Christ crucifié et glorifié, ressuscité pour nous. À Timothée, l'apôtre peut dire souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alors, Timothée ne l'avait pas oublié. Hein. Il n'avait pas oublié. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais il était important que Jésus ait la place qui lui revenait, qui lui était due dans la vie de Timothée. Veillons à cela. Que réellement Jésus ait la place qui lui revient dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, dans nos journées. Il y a quelquefois des ménages à faire, il y a des concepts, des pensées qui viennent de ce monde, des pensées de la chair, qui entravent notre avancement spirituel. Philadelphie est une église fidèle, sa base c'était la parole. Il ne disait pas c'est écrit, mais moi je pense que. Ça quelquefois. Ah, c'était quoi? Oui, je pense que. Voilà. Oh, voilà, quelle catastrophe. Vous savez, l'église moderne, assez fourvoyée, assez détournée, assez mondanisée, et elle a jeté beaucoup de choses aux orties, elle s'est débarrassée d'une partie de la parole de Dieu. C'est triste. Que le Seigneur nous aide.
Amen.
Bon, je parle longtemps, non, ça va. Vous me supportez encore un petit peu. Ça va? Est-ce que notre vieil homme nous crée encore des problèmes? Ne perdons jamais la vision de la croix et de la résurrection du Seigneur. Romains 6,11 dit vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus. Que ce soit une vérité qui explose au cœur, littéralement, afin que nous ayons une position de foi par rapport au péché. Que le Seigneur nous aide. Jésus peut nous dire personnellement, ta vieille nature, elle est morte avec moi sur la croix. Et ça, c'est vrai. Ta vieille nature, elle est morte avec moi sur la croix. Tu es ressuscité. Nous sommes des ressuscités. Ça, c'est une position de foi que nous avons besoin de prendre chaque jour de notre vie. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, nous dit la parole de Dieu, toute chose qui nous ennuyait, qui ennuyait, le racheter dans le passé, ses mauvais désirs, ses passions, tout ce qu'il avait essayé vainement de réprimer, tout ça c'est sur la croix. Tout ça, c'est sur la croix. Ça c'est la vieille nature qui conduit l'homme à pécher, ce n'est pas la nouvelle. La nouvelle nous conduit à rejeter le péché. Hébreux 12.1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alors Philadelphie, elle représente l'église fidèle de la fin des temps. En général, c'est comme ça qu'on considère les choses. Le point important, c'est son attachement à la parole de Dieu, en gardant les enseignements de la parole, en les vivant par la foi. Philadelphie s'est rendue agréable à Dieu, et elle était vraiment bénéfice d'une belle promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation ou de l'épreuve. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre? Je viens bientôt. Amen. Alors, bien sûr, un autre élément important, bien sûr, c'était la dépendance de l'église locale envers son Seigneur, parce qu'elle n'était pas forte, elle n'avait pas beaucoup de puissance, elle n'était pas très nombreuse, elle était consciente de cela, donc ça l'obligeait vraiment à compter sur son Seigneur. Encore une chose vitale, c'était l'amour fraternel. Hein, Hébreux 13 nous dit « persévérez, persévérez dans l'amour fraternel ». C'est un élément important qui a fait que cette assemblée-là n'a pas reçu de blâme de la part du Seigneur. Le témoignage de Jésus « Tu as gardé ma parole » l'indique. Elle avait gardé le commandement du Seigneur. Vous connaissez le commandement du Seigneur? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, cette lettre du Seigneur, elle est un modèle pour nous aussi. Vous allez la suivre, gardez la parole, nous encourage, persévérer dans les enseignements de la parole de Dieu, dans l'amour, dans la charité, dans l'amour fraternel. Que le Seigneur use de grâce envers nous, envers chacun de nous. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, soudainement. Soudainement. Soudainement.